Rift, connu pour être le berceau de l'humanité,
la chronique scientifique interdisciplinaire qui va vous parler du rift africain.
Sujet d'étude passionnant pour les scientifiques qui travaillent sur le mouvement des plaques tectoniques.
Le rift est africain est une grande structure géologique que l'on trouve dans la partie est de l'Afrique et qui se poursuit en direction du sud jusqu'au Mozambique, qui nous montre comment naissent les océans.
Rift, c'est tout de suite sur Divergence FM.
Et il est pratiquement certain que cette faille s'agrandira encore.
Bonjour, je m'appelle Mathieu Schuster, je suis directeur de recherche au CNRS et je travaille à l'Institut des sciences de la Terre et de l'Environnement de Strasbourg. Ma discipline est la géologie, c'est-à-dire que j'étudie les roches, et plus précisément, je suis sédimentologue, ce qui veut dire que j'étudie les roches sédimentaires. Les sédiments, comme par exemple du sable ou des galets, proviennent de l'érosion des reliefs. Les sédiments se déposent ensuite à la surface de la Terre, dans le lit des rivières, dans les déserts, à l'embouchure des deltas ou au fond des lacs et des océans. Une fois déposés, les sédiments deviennent des roches sédimentaires, comme des grès ou des conglomérats. Ces roches présentent des caractéristiques physiques et chimiques propres aux environnements dans lesquels les sédiments se sont déposés. Le travail du sédimentologue consiste alors à reconnaître ces caractéristiques qui sont autant d'indices de leurs conditions de mise en place pour enfin proposer une reconstruction des paysages du passé. Les méthodes du géologue sont simples puisqu'elles reposent principalement sur l'étude des roches là où on les trouve, c'est-à-dire sur le terrain. Le travail de terrain s'appuie sur l'observation directe des roches pour en déterminer la nature, pour identifier des structures sédimentaires qui renseignent sur les processus de transport et de dépôt des sédiments, et pour caractériser comment les diverses couches sédimentaires s'empilent. Les principaux outils du géologue sont assez basiques, puisque nous avons un marteau en main pour casser des cailloux, une loupe pour observer les cassures fraîches qui viennent d'être faites dans ces cailloux, un carnet de terrain pour noter nos observations, un appareil photo pour compléter la documentation de nos observations, ainsi qu'une boussole et des cartes. Divers échantillons sont prélevés sur le terrain afin d'être ensuite analysés au laboratoire. À cette approche de terrain s'ajoutent d'autres méthodes et d'autres types de données. Il y a par exemple la photographie aérienne et l'image satellitaire qui permettent de cartographier des structures géologiques ou géomorphologiques à grande échelle. Il y a aussi les diverses méthodes d'imagerie et de documentation du sous-sol, notamment l'imagerie sismique et les forages géologiques qui permettent de voir la géologie en profondeur, par exemple des failles qui délimitent un bassin sédimentaire et des strates qui en constituent le remplissage. La mise en musique des observations s'appuie sur deux méthodes analytiques, d'une part ce qu'on appelle l'analyse de faciès sédimentaire et d'autre part la stratigraphie séquentielle. La première approche permet de déterminer l'environnement de dépôt des couches successives, la seconde permet de comprendre comment les environnements de dépôt se succèdent au cours du temps dans un bassin sédimentaire. Ma recherche actuelle est assez focalisée sur les lacs. J'ai commencé à m'intéresser aux lacs en travaillant avec des équipes dont les découvertes paléontologiques et archéologiques étaient très souvent associées à des anciens paysages lacustres. Je me suis ensuite principalement intéressé aux lacs fossiles, utilisés comme marqueurs de changements climatiques et environnementaux. Puis, pour mieux comprendre ces lacs anciens, j'ai commencé à m'intéresser aux lacs modernes. Actuellement, je m'intéresse à comprendre les processus d'érosion, de transport et de dépôt des sédiments dans les lacs. Ce qui m'intéresse le plus particulièrement, c'est de comprendre comment les mouvements des masses d'eau générées par le vent, c'est-à-dire les vagues et les courants, influencent la distribution des sédiments dans les grands lacs. De manière générale, le rift est-africain peut être considéré comme une mégastructure géologique active. Le rift représente une manifestation majeure de la tectonique des plaques, car c'est l'endroit où la croûte terrestre se déchire, se disloque, pour potentiellement donner naissance à un nouvel océan. C'est donc un lieu et un objet exceptionnel qui intéresse a priori tous les géologues. Le rift est-africain m'intéresse tout particulièrement parce qu'il abrite un grand nombre et une grande diversité de lacs. Certains existent encore aujourd'hui, d'autres ont disparu, mais les sédiments qui s'y sont déposés autrefois permettent de reconstruire l'histoire de ces lacs disparus. Dans le rift est-africain, la formation de bassins lacustres est liée à la tectonique en extension qui conduit à la création de nombreuses dépressions topographiques qui, en fonction du climat, peuvent se remplir d'eau pour ainsi former des lacs. Ainsi, le rift est-africain m'offre un laboratoire naturel pour étudier le fonctionnement d'une belle diversité de lacs et pour comprendre les facteurs qui en contrôlent l'évolution au cours du temps. Les lacs, que ce soit dans le rift est-africain ou ailleurs dans le monde, qu'ils soient fossiles ou actuels, intéressent de nombreuses disciplines. Je suis donc amené à travailler et à interagir avec des collègues issus de diverses disciplines, des sciences de la Terre et de l'environnement, des sciences humaines et sociales, et des sciences de l'évolution et de l'écologie. Pour comprendre le fonctionnement des lacs, je travaille depuis quelques années avec des modélisateurs et notre ambition est de construire des répliques numériques des lacs. L'interdisciplinarité est une richesse parce qu'elle apporte une ouverture à d'autres approches, à d'autres méthodes et à d'autres concepts. C'est une manière de faire avancer différemment sa propre recherche et peut-être aussi une manière d'affiner la définition de mes propres questionnements scientifiques. Le rift est-africain est souvent présenté comme étant le berceau de l'humanité en raison du grand nombre de restes d'ancêtres humains qui ont été découverts. Mais en 1995 puis en 2002, deux hominidés anciens ont été découverts par l'équipe de Michel Brunet au Tchad, c'est-à-dire à quelques milliers de kilomètres en dehors du rift est-africain. Ces découvertes révolutionnaires soulèvent de nombreuses questions et surtout, elles suggèrent fortement qu'il y a encore de très belles découvertes paléo-anthropologiques à faire quelque part entre le Tchad et le rift. Ceci commence vraisemblablement par la recherche d'anciens lacs au Soudan et au Soudan du Sud. Plus personnellement, la problématique que je souhaite développer à court terme est celle du futur des lacs en général et de ceux du rift en particulier. En effet, dans le contexte actuel de dérèglement climatique et de changements globaux, l'avenir des lacs, des écosystèmes et des communautés qui en dépendent semble plutôt incertain. Il y a des enjeux sociétaux majeurs liés au devenir des lacs et je suis convaincu qu'une recherche fondamentale comme l'est la modélisation numérique des lacs peut aider à anticiper le futur des lacs.
Rift, connu pour être le berceau de l'humanité, la chronique scientifique interdisciplinaire qui va vous parler du rift africain.
Sujet d'étude passionnant pour les scientifiques qui travaillent sur le mouvement des plaques tectoniques.
Le rift est-africain est une grande structure géologique que l'on trouve dans la partie est de l'Afrique et qui se poursuit en direction du sud jusqu'au Mozambique, qui nous montre comment naissent les océans.
C'était Rift sur Divergence FM.
Et il est pratiquement certain que cette faille s'agrandira encore.